Chapitre 8. Études au collège. Au mois d'août 1829, je terminais au collège de Nicolet mon cours régulier d'études classiques commencé en 1822. J'aurais pu aisément, en 4 ans, apprendre ce qui me fut enseigné pendant ces 7 longues années. Il ne se passe pas de jour que l'écolier n'entende répéter que sa raison ne lui a pas été donnée pour se guider lui-même, mais uniquement pour connaître la main de celui que Dieu désigne pour son guide. Et cette main, sûre, infaillible, est toujours, en dernier lieu, la main du pape. Toutes les ressources du langage, tous les trésors des plus ingénieux sophismes, toutes les mines inépuisables des fables et des paradoxes, tous les mille et mille textes tronqués des saints-pères et des écritures, tout est exploité avec un art incroyable afin de démontrer à l'élève que sa raison n'a pas le droit de rien lui apprendre, sinon qu'elle doit se prosterner aux pieds du souverain pontife, seule et unique source des vérités et des lumières que Dieu a données au monde pour le sauver. Dans les collèges, comme dans les couvents de Rome, on élève la jeunesse, oui, on l'élève. Mais jusqu'à quelle hauteur lui permet-on de s'élever? Jamais plus haut que les pieds du pape. J'étais arrivé à ce suprême degré de perfection, à la fin de mes études, au point que Gigi Barthes, mon condisciple, écrivait en 1844 dans son journal à propos de mon manuel de tempérance. « Monsieur Chiniki ne fait que couronner son apostolat de tempérance avec la sainte et ardente ambition de caractère dont il donnait déjà de visibles preuves dans sa vie de collège, où nous avons si souvent été témoins de sa piété d'enfant quand il était le modèle de tous ses compagnons qu'il avait surnommé le Louis de Gonzague de Nicolet. » Ces paroles du rédacteur du Moniteur canadien signifient que je voulais absolument être sauvé, mais que, ne connaissant point de meilleur moyen de salut que celui d'obéir aveuglément à mes supérieurs, j'avais éteint aussi complètement que possible toutes les lumières de la raison afin de ne suivre que la raison et la volonté de mes supérieurs. Je ne croyais pas ce qu'ils me disaient de croire. Je ne pensais pas ce qu'ils me permettaient de penser. Je marchais sous leur conduite exactement comme un aveugle que son guide tient par la main. Quoique mon esprit se révoltât tous les jours contre les fables dont on le nourrissait, je le forçais néanmoins d'accepter ces fables comme des vérités historiques. Bien que ma raison se soulevât tous les jours contre les ridicules sophismes que l'on me débitait, comme les seuls principes de la philosophie chrétienne, j'étais obligé de lui imposer silence et de la forcer à subir le joug du mensonge et de l'erreur. Cependant, malgré toute ma bonne volonté d'être soumis à mes supérieurs aussi docilement qu'ils le désiraient, il y avait par moments dans mon âme des luttes terribles où toutes les forces de mon intelligence semblaient se rallier pour briser les fers que je leur forgeais. Je n'oublierai jamais qu'un jour, j'exprimai à mon professeur de philosophie, le révérend Charles Harper, quelques doutes sur la nécessité absolue pour l'inférieur de soumettre sa raison à son supérieur. Je lui dis: « Lorsque j'aurai ainsi soumis ou lié complètement mon intelligence à celle de mon supérieur, s'il abuse de son autorité pour moi pour me tromper par de fausses doctrines ou me commander des choses qui, suivant moi, sont mauvaises et malhonnêtes, ne serais-je pas perdu en obéissant? N'aurais-je pas à rendre à Dieu un compte terrible pour m'être ainsi laissé tromper ?» Le professeur me répondit: « Non, vous n'aurez jamais à rendre à Dieu compte des actions que vous faites par l'ordre de vos supérieurs légitimes. S'ils vous trompaient, en se trompant eux-mêmes, ils seraient seuls responsables de l'erreur que vous auriez commise. Votre péché ne vous serait point imputé tant que vous suivrez la règle d'or qui constitue la base de la philosophie comme de la perfection chrétienne, l'humilité et l'obéissance. » Peu satisfait de cette réponse, je fis part, après la classe, de la répugnance que j'éprouvais à accepter de pareils principes à plusieurs de mes condisciples, parmi lesquels se trouvait Joseph Turcot, mort depuis, je crois, ministre des Travaux publics du Canada. Il me répondit: « Plus j'étudie la logique qu'on nous enseigne, plus je suis convaincu que tout cela est arrangé pour faire de nous des brutes. Je sais bien, encore une fois, qu'on peut me citer, ça et là, quelques intelligences d'élite sorties des collèges de Rome. Oui, mais ces intelligences supérieures ont su, dès le commencement, briser les entraves avec lesquelles on voulait les arrêter. Et, tout en gardant extérieurement les règles de la maison pour avoir la paix, elles en ont mis sous leurs pieds l'esprit et les tendances. Nobles et puissantes individualités qui sont restées libres même au sein de la prison. Mais, parmi ces grands esprits qui sont sortis des collèges de l'Église romaine et qui ont porté la lumière au sein de leur nation, combien n'y en a-t-il pas qui sont devenus, secrètement et souvent même publiquement, les plus impitoyables ennemis du prêtre et de sa religion ? N'est-ce pas un fait patent que ces élèves, dont souvent les prêtres de Rome feignent de se glorifier, sont sortis du collège avec un mépris souverain, souvent une haine implacable pour le sacerdoce romain et son faux christianisme ? Ils ont vu le prêtre romain d'assez près et ils l'ont étudié assez longtemps pour connaître qu'il est l'ennemi le plus dangereux et le plus acharné de l'intelligence, de la liberté et du progrès. Papineau a vécu parmi les prêtres et cet aigle du Canada a pu voir, dans son enfance, les chaînes avilissantes dont les prêtres avaient enlacé les bras vigoureux de notre jeune et cher pays. Aussi, voyez comme toute sa noble existence a été consacrée à combattre les prêtres et comme sa parole éloquente les a constamment flétris sans pitié. Tout le Canada sait avec quel souverain mépris il les a repoussés à son lit de mort au moment suprême où il échangeait la vie du temps pour celle de l'éternité.